Oui, alors, le temps est déjà avancé, mais j'ai un message pour vous ce matin. Et ce message s'intitule « Sa vraie valeur ». La vraie valeur de Jésus, finalement. On a chanté tantôt « Rien ne peut mesurer sa valeur hein? ». Et ce n'était pas vraiment prévu avec Bill qu'on parle de la valeur, mais il a choisi le bon chant. C'est très important, cette question de valeur. Si je faisais un sondage avec la question suivante, quelle est ta possession qui a le plus de valeur pour toi? Je pense que je recevrais une variété de réponses. Il y a des personnes qui diraient santé. Il y a des personnes qui diraient famille. Ou peut-être carrière, réputation, éducation, sécurité. Il y en a qui diraient bonheur. La Bible nous parle d'un trésor de très grande valeur. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va lire trois textes qui viennent de trois parties différentes de la Bible et qui parlent tous du même trésor de grande valeur. Prions d'abord. Oui, Seigneur, guide-nous dans ta parole maintenant. Ouvre nos oreilles spirituelles. Au nom de Christ. Amen. Dans l'Ancien Testament, d'abord, le psaume 36, à partir du verset 8, parle de Dieu et de notre relation avec Dieu. Il dit ceci. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est beau! Quel trésor que ce Dieu et cette maison qui symbolise quelque chose de plus vaste encore. Maintenant, il y a cette parabole que Jésus a racontée. Il dit, « Le royaume des cieux est semblable encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a achetée. » Puis le troisième texte qui vient des Épîtres, là, c'est après Jésus, c'est quelqu'un qui a rencontré Jésus, qui a rencontré Jésus par l'Évangile, Paul, l'apôtre, et qui dit ceci à son propre sujet. Il dit, « Moi-même, je pourrais mettre ma confiance en moi-même. » Parce qu'il parle de certains prédicateurs, on a vu ça la semaine passée, qui mettent de l'avant les rituels religieux, que si tu les fais, ça te donne un standing religieux dans le judaïsme. Et il dit, c'est pas la bonne manière. Il dit, moi-même, au niveau du standing religieux, moi, plus que tout autre, je pourrais mettre ma confiance en moi-même, dans la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en soi-même, je le peux plus encore. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Et du point de vue du zèle, j'étais même un persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice, c'est d'abord d'avoir un standing de juste devant Dieu. Par rapport à la justice qui vient de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Que Dieu grave sa parole dans nos cœurs. Alors, ces trois textes nous parlent du même sujet, avec des mots différents, et même à des époques très différentes, mais ça nous amène au même sujet. Et moi, j'aimerais prendre le texte du milieu, l'histoire du marchand que Jésus a raconté. Un marchand qui est à la recherche de perles. Alors, moi, j'ai imaginé cette semaine, je pensais à ce marchand, je me suis dit, il devait être un bijoutier. Un bijoutier qui avait du succès, sans doute. Il était ambitieux, motivé, il voulait faire avancer son commerce. Et j'imagine qu'il était propriétaire d'un magasin de bijoux. J'aime ça, moi, les magasins de bijoux. Il y en a plusieurs à Dorval et ça m'impressionne toujours. Ce propriétaire, ce marchand, était propriétaire d'un magasin, mais aussi d'un inventaire de bijoux, un inventaire important de pierres précieuses et de métaux précieux, donc des choses qui avaient de la valeur. Il possédait sûrement un atelier avec de l'équipement spécialisé. Il avait des employés. Peut-être aussi un entrepôt avec des employés pour la sécurité. J'imagine qu'il avait une belle maison pour sa famille et pour lui. Et avec les profits qu'il faisait, il avait de l'argent. Et il pouvait, avec le cash venant de ses profits, il pouvait voyager. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était à la recherche d'autres bijoux, d'autres pierres précieuses et des perles aussi. Il allait dans ses voyages, il allait dans les magasins d'occasion, dans des marchés aux puces. Voilà, dans des encans. Des ventes de fermeture, des ventes de patrimoine. Il allait peut-être même, je ne sais pas moi, sur les quais où les pêcheurs d'huîtres revenaient pour ramener leurs huîtres. Parce qu'évidemment, les perles, ça vient des coquilles d'huîtres. Et donc, comme je dis, il avait du cash dans les poches pour profiter d'occasion. Lui était spécialiste, peut-être il voyait un collier qui était en vente dans un marché aux puces et la valeur était beaucoup plus grande que le prix. Et voilà, il avait du cash pour acheter. Et dans un de ses voyages, ce marchand découvre, dans un marché, une perle. Une perle. Une perle qui, il le voit dans son intuition, elle a une valeur unique. Tout change dans sa tête. Il comprend tout de suite les enjeux pour sa vie. Il y a un bouleversement pour sa vie qui est à sa portée. Et là, il fait quelque chose de surprenant qui n'a pas de sens quand on y pense. Il décide d'acheter cette perle. Mais, et ce qui n'a pas de sens, c'est qu'il n'a pas les moyens d'acheter la perle. En tout cas, pas tout de suite. Il n'a pas la somme qu'il faut. Alors, sûrement qu'il demande au vendeur ou à la vendeuse, « Mets cette perle de côté pour moi. Je te donne un dépôt avec le cash que j'ai. Il faut que j'aille chercher le reste. » Il rentre. Il vend son magasin. Il vend son atelier. Il vend son entrepôt. Il vend tout son équipement. Il vend tout son inventaire de bijoux, de perles, d'or et d'argent. Il met à pied tous ses employés. Il vend même sa maison. Il installe sa famille temporairement dans sa parenté. Je suis sûr que sa femme était vraiment contente. Et ensuite, il prend tout ce cash qu'il a accumulé et il retourne dans la ville où il avait vu la perle, et puis il l'achète. Donc, à la fin de l'histoire, j'imagine, il rentre dans sa ville, il retrouve sa famille complètement déboussolée. Ce marchand, il n'a plus rien, sauf cette seule perle unique. Je vous pose la question, qu'est-ce qui lui a pris? Quelle sorte de sens des affaires détraqué lui a fait agir de la sorte? Comment est-ce qu'il peut continuer son commerce, sa vie, avec une seule perle et rien d'autre? J'ai entendu quelque chose. Peut-être, peut-être. En tout cas, la seule explication que j'ai été capable de trouver, c'est que le marchand a réalisé la vraie valeur de la perle, puis cette valeur dépassait tout ce que sa tête à lui et que tout ce que son monde autour de lui pouvait imaginer, et cela l'a poussé à l'action, l'a poussé à une décision et à l'action. Il a réalisé la vraie valeur de la perle, c'était au-delà de tout ce qui pouvait être imaginé, et cela l'a poussé à une action surprenante, pour dire le moins. Oups, je vais laisser ça pour le moment. Mais c'est comme ça, mes frères et sœurs, que la Bible nous parle du trésor que Dieu nous offre dans l'Évangile. L'offre que Dieu nous fait, c'est qu'on peut entrer dans une relation personnelle avec lui, une relation personnelle et éternelle, lui le Dieu de l'univers, et une relation intime en plus. Déjà, on voit que dans l'Ancien Testament, avant que les gens connaissent Jésus clairement, cette relation avec Dieu était déjà comparée à comme un repas, un buffet grandiose, un torrent de délices. Le psaume qu'on a lu nous dit que l'être humain peut venir manger à cette table délicieuse et boire à ce torrent de délices. Et c'est quelque chose qui est sans arrêt. C'est cette relation personnelle avec le Dieu qui s'est révélée dans la Bible et en Jésus-Christ. Et cette relation nous remplit de vie, d'amour, de lumière, parce que Dieu est vie, amour et lumière. Et c'est seulement de ça dont on a besoin. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, l'Évangile vient préciser que c'est Jésus lui-même qui est la perle précieuse. Alors, Jésus, le Dieu, le Fils, existait déjà dans l'Ancien Testament, et c'est ce Dieu trinitaire que déjà le peuple d'Israël pouvait commencer à connaître. Et déjà, il sentait que, waouh, c'est comme être invité dans une maison de richesse. Mais c'est Jésus qui vient concrétiser la chose. Et c'est pour ça que Paul, dans sa vie, lorsqu'il en parle, dans la lettre aux Philippiens, on a lu un bref passage, Paul nous dit qu'il a acheté la perle. Il a rencontré la perle, ou plutôt, elle est venue le rencontrer, le bouleverser, et lui a aussi pris cette décision de l'acheter. Et dans le texte qu'on a lu, il y a comme deux choses. Il faut au départ acheter la perle. C'est un peu comme l'analogie dans la vie chrétienne. On pourrait que c'est ce qu'on dit quand on se fait baptiser. C'est oui, la perle, je l'achète. Et je passe par les eaux. Mais Paul parle d'autre chose. Il parle qu'après, il continue à découvrir, à apprécier, à miser sa vie sur la valeur de la perle. Puis, chaque jour, il découvre que sa valeur est encore plus grande qu'il imaginait. Donc, au départ, action décisive pour acheter la perle et après, réalisation toujours nouvelle de sa valeur. Et ça, ça nous amène dans un style de vie où on a une disposition du cœur qui est nouvelle, une façon de voir la vie qui est différente et une aptitude à prendre des décisions qui va être surprenante. Beaucoup de petites décisions, puis parfois aussi des grosses décisions. Je vais résumer en disant ceci. Si seulement tu réalisais la vraie valeur de ta relation avec Jésus, beaucoup de choses deviendraient moins importantes pour toi. Est-ce que ce n'est pas une manière de résumer un peu là où Jésus veut qu'on en vienne dans notre façon de voir la vie? Si seulement tu réalisais la vraie valeur de ta relation avec Jésus, beaucoup de choses deviendraient moins importantes pour toi. C'est ce que Paul dit. Puis Paul, c'était un fanatique de Jésus. Il y en a qui disent, ouais, mais Paul, c'est un apôtre. Moi, je suis juste moi. Mais en fait, Paul dit, suivez mon modèle, même à ceux qui ont un appel très différent du sien. On a tous un appel en tant qu'enfant de Dieu. Et Paul dit ceci. Il nous demande d'adopter la même attitude. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même aujourd'hui, je considère tout comme une perte à cause du bien suprême, qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est beau, hein, comment il dit que c'est vraiment une relation personnelle avec un Dieu tellement proche de nous parce qu'il est devenu un homme. Il a vécu ce qu'on a vécu. Comme on a dit au début, il y a beaucoup de choses différentes auxquelles on donne la valeur dans nos vies. Aucune n'est dans la même catégorie de valeur que ta relation avec Dieu à travers Jésus. Ce n'est pas juste une échelle de E jusqu'à A+. Non, c'est deux catégories différentes de valeur. Nos richesses matérielles sont importantes pour vous, pour moi. Ce n'est pas dans la même catégorie. Regardez le marchand, il a tout vendu. Mais notre relation avec Jésus, c'est beaucoup plus important. N'oubliez pas que les disciples de Jésus, ils ont quitté leur famille pour le suivre. Et c'est toutes des bonnes choses, les richesses matérielles, les relations familiales, la sécurité de vie. C'est important, on a besoin de la rechercher pour nos familles. Mais, cette semaine, je lisais dans des nouvelles missionnaires à propos d'une maman en Inde avec des enfants. Cette maman a cru en Jésus et ses enfants aussi. Le mari n'était pas mentionné dans ce bulletin de prière. Et cette femme avec ses enfants ont été rejetés par leur milieu familial hindou. Ils ont perdu leur sécurité de vie. Alors, on demandait de prier pour cette dame, cette sœur, cette famille. Et ils disaient, priez pour qu'ils reçoivent le soutien financier dont ils ont besoin. Sous-entendu, à travers leur nouvelle famille chrétienne qui doit venir à leur aide. Mais il rajoute aussi, « Priez que leur conviction comme quoi suivre le Christ en vaut la peine ne faiblisse pas. » Priez que ne faiblisse pas leur conviction que suivre Christ vaut la peine parce qu'il est la perle au prix, à la valeur infinie. On peut le perdre de vue, mais c'est pourtant la vérité. Prions pour cette sœur. Paul parle d'un domaine un peu différent ici de bien, c'est le prestige social et religieux. Lui, il énumère son pédigré dans le texte, hein? C'est non seulement un juif pur laine, il parle la langue, mais il est hébreu, né d'hébreu. Ça veut dire que des deux côtés, du père puis de sa mère, c'est des pur laine. Alors, ceux qui sont québécois, vous comprenez ce langage? Ça a beaucoup de valeur dans la culture, cet héritage culturel, ethnique même, et dans le judaïsme de cette époque, encore plus. Et il avait les diplômes qui venaient des rituels, il était circoncis. Mais non, il avait aussi des diplômes de ce qu'il a mérité par ses études. Il était devenu pharisien. C'est pas n'importe quoi. Ça prenait des études poussées et c'était très prestigieux. Et Paul prévient les chrétiens de Corinthe ici. On l'a vu la semaine passée, il y a des prédicateurs qui vont venir et qui vont pousser les croyants à se faire circoncire, à rechercher ces sources de prestige religieux et social du judaïsme. Et Paul dit, si vous vous lancez dans cette quête-là, ça va diminuer la valeur de Jésus dans vos cœurs. Paul explique, ces choses-là, c'est plus ça qui compte. Si tu as déjà reçu la vraie perle, et que tu la gardes dans ta main, ces choses-là ne seront plus nécessaires pour toi. Elles peuvent être utiles, parce que Jésus te demande d'aller dans tel endroit, puis tu as besoin d'un nouveau diplôme. Je comprends que... Mais c'est une autre dynamique. C'est de laisser aller le passé si le passé n'est pas utile pour l'appel que Dieu te donne aujourd'hui. Amen. C'est difficile pour nous, par contre. Moi, je vais vous raconter une histoire personnelle dans un domaine un peu semblable, pas tout à fait, mais il s'agit des diplômes universitaires. Moi, je suis une personne qui est lente à dire oui à Dieu. Alors, si tu es comme moi, si tu as de la lenteur, tu es hésitant, eh bien, peut-être que ça va t'aider, mon histoire. Donc, il y a des personnes qui sont surprises d'entendre que, dans mon passé, j'ai étudié pour devenir ingénieur. Surtout que je suis pas une personne très ingénieure. Je suis plutôt philosophe. Mais j'ai étudié pour devenir ingénieur, c'est vrai. J'ai des diplômes, un diplôme plutôt. Et durant mes études d'ingénieur à l'Université d'Ottawa, on m'a présenté Jésus et j'ai reçu Jésus dans ma vie. J'ai continué, j'ai fini les études et je suis devenu ingénieur en télécommunications. Puis, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant quelques années, et ça se passait très bien. Mais, dans mon cas, moi, mon Seigneur m'a appelé à changer de cap, à me former pour le ministère chrétien, et puis finalement, il me menait vers le ministère chrétien à temps plein. C'est pas de ma faute, c'est le Seigneur qui me l'a demandé. Encore une fois, il n'y a rien de mal avec le génie, avec les télécommunications et avec une carrière d'un chrétien dans ce domaine-là. Chacun a l'appel que Jésus lui donne. Mais j'ai obéi finalement et je travaillais dans une œuvre chrétienne et j'étais à temps plein et je m'enlignais pour une vie là-dedans, mais je gardais une bibliothèque dans mon appartement de livres de télécommunications. Je ne les consultais plus depuis longtemps, mais j'aimais ça les garder. J'étais fier, je trouvais que c'était beau, et puis je trouvais que c'était comme un badge d'honneur, puis peut-être aussi une sécurité aussi. Les gens voyaient les livres, quand ils venaient chez moi, ils disaient « Wow, c'est impressionnant! » Tu as vraiment étudié là-dedans? Je ne sais pas, oui. Avec soit orgueil ou fausse humilité. Et à l'époque, j'étais célibataire. C'était avant que je sorte avec Cheryl. Et en général, les filles qui s'intéressaient à moi me disaient, « Oh, tu n'es pas juste un missionnaire, tu es un ingénieur. Je trouve que c'est bien que tu gardes les livres. On ne sait jamais. » Je ne sais pas. Vous pouvez imaginer comment elle pensait, mais bon, bref. Mais quand j'ai commencé à fréquenter Cheryl, qui était elle aussi dans le travail de mission, elle a vu cette bibliothèque de livres, puis c'est la première fille qui s'était... En fait, oui, tu t'intéressais à moi, puis c'est une période où elle ne s'intéressait pas à moi, mais il y a eu un changement. Puis ça, c'est pour un autre dimanche. Elle a vu mes livres, puis elle a dit, « Pourquoi tu gardes ces livres? » Ben, je sais pas, je les aime. Ben, est-ce que tu les utilises? Non. Il me semble que Dieu t'a appelé au ministère à temps plein. Oui. Ben, alors, ces livres-là, ils prennent de la place pour rien. Tu devrais les vendre ou les donner. Puis, le Seigneur m'a parlé à travers Cheryl. Puis comme c'était la première fille qui me parlait dans le casque comme ça, je l'ai mariée. Et j'ai fini par me séparer de ces livres-là. Ils étaient pas... Mais vous comprenez le principe. Ça, c'est à mon niveau, là. Je suis pas un apôtre Paul, mais à mon niveau, il fallait que je comprenne que ces choses-là, qui étaient un gain... une fierté, un honneur, commençait à devenir une perte parce que Jésus m'a appelé à lui et ce que lui voulait pour ma vie, ça n'incluait pas ce fardeau supplémentaire qui non seulement prenait de la place, mais pouvait aussi me distraire de Jésus lui-même parce que j'étais tourné vers le passé. Donc, moi... Ce texte de Philippiens m'a aidé par rapport à ça. Ces choses qui étaient autrefois pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alors, pour les ingénieurs qui sont parmi nous, Hector et d'autres, chacun a son appel différent, mais peut-être ce qui nous unit tous, c'est que ce que Jésus nous demande de le faire, il faut le faire pleinement en laissant les choses du passé. Alors, on va conclure. Le marchand, lui, il a vu la perle. Il a réalisé sa vraie valeur qui dépassait tout ce qu'il pouvait imaginer. Et cela l'a poussé à une décision et à une action. Puis toi, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, peut-être que tu connais Jésus depuis longtemps, peut-être que tout ça, c'est nouveau pour toi, mais si seulement tu réalisais la vraie valeur de ta relation avec Jésus, puis c'est à ça que Dieu t'appelle ce matin, à réaliser toute la vraie valeur de ce que Dieu t'offre. Beaucoup de choses vont devenir moins important pour toi. Puis ça va t'aider à entrer dans ce nouveau style de vie, peut-être plus décisif, peut-être plus libre et joyeux aussi. Et c'est pour ça que je vais te laisser avec une question de réflexion. As-tu une décision à prendre basée sur la vraie valeur de ta relation avec lui? As-tu une décision à prendre basé sur ta vraie valeur de ta relation avec lui? Peut-être tu dois dire oui à quelque chose qu'il est en train de te proposer. Peut-être c'est dans un domaine précis et simple de ta vie quotidienne. C'est peut-être quelque chose de plus grand. Dire oui à quelque chose ou peut-être dire non à quelque chose. ou peut-être les deux. On n'est pas ici pour imposer des règlements sur quiconque. Cette question, c'est entre toi et ton Seigneur. Pour clore le message, on va prier, mais je veux juste vous rappeler les choses qu'on chante les dimanches. Donc, tantôt, on a chanté « Rien ne peut mesurer sa valeur ». On a chanté comment qu'il est précieux, comment qu'il est grand, comment qu'il est au-dessus de tout. Il y a aussi cet autre chant qu'on a beaucoup chanté. Peut-être qu'on l'a chanté récemment, mais c'est... Oups! Ah non, OK, il n'est pas dans le... Mais je vais vous lire les paroles. « Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. » Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Ouais. «
Même dans l'épreuve, mon âme chante. Oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. » Amen.
Amen.
Prions. Merci. Merci d'être pour nous, d'être pour moi, la perle de grande valeur. Merci parce que moi, un simple humain qui peut-être a été maltraité par beaucoup d'autres humains et par la vie, que c'est ça que tu m'offres, mon Dieu, d'avoir une relation personnelle avec toi. Pour que je devienne comme un collier, une bague qui brille avec une perle précieuse au centre de moi, parce que tu veux venir vivre en moi. Tu vis déjà en moi, si je t'ai déjà reçu, et si je ne t'ai pas encore reçu, que tu frappes à ma porte. Et tu attends que j'ouvre. Oh, merci, mon Dieu, que je peux acheter la perle. Et merci aussi parce que si je l'ai déjà achetée, que je peux chaque jour en découvrir davantage la beauté. Ô perle précieuse, ô Jésus, ouvre mon cœur pour que je puisse te recevoir encore plus dans ma vie. Réaliser qui tu es.